Session philosophique sur la personne par le père Philippe, le 12 juillet 1989 à Saint-Jeaudard.
Nous allons continuer cette recherche théologique. Donc, dans la lumière de la foi, sur le mystère de Jésus. Je rappelle, dans l'évangile de Saint Jean, les grandes affirmations que Jésus fait lui-même et que Saint Jean nous rapporte. Je suis le pain. Je suis la lumière du monde. Je suis. Je suis la porte. Je suis le bon pasteur. Je suis le Fils de Dieu. Je suis la résurrection. Chapitre 6. Au chapitre 11. Si vous êtes attentif à l'évangile de Saint Jean, au rythme de l'évangile de Saint Jean, vous êtes là dans la période des grandes luttes. Avant du chapitre 2 au chapitre 6 de Cana. Début de la vie apostolique de Jésus. Jusqu'au chapitre 6, on peut dire que c'était les prémices. Les premières messes, vous voyez, les prémices de la vie apostolique de Jésus. Trois premiers moments pour Israël, trois moments suivants pour l'éclatement de toutes les limites du peuple d'Israël. Et le dernier moment, il y a sept moments. Ce n'est pas les grandes luttes, c'est au contraire les éclosions. Les éclosions qui impliquent certaines corrections, mais c'est les grandes éclosions. Puis après, c'est les grandes luttes. Puis avec le chapitre 12, la dernière semaine. Chapitre 12 au chapitre 19 inclus la dernière semaine. Il y a très nettement dans l'évangile de Jean, donc l'ultime révélation sur Jésus, il y a très nettement ce rythme dans la vie apostolique de Jésus. Mystère de joie, mystère de lutte, mystère d'anéantissement la dernière semaine avec la croix et le sépulcre. Puis les deux derniers chapitres, 20 et 21, la résurrection, la gloire. Et bien, dans les périodes des grandes luttes, pourquoi les grandes luttes? C'est pour les présences. Toujours. C'est dans la lutte où les présences se manifestent le plus. Encore plus que dans la joie. parce que la présence devient le salut, devient la lumière. Vous avez donc là la grande théologie des présences de Jésus, les sept modalités de présence. C'est très beau, du reste, comme oui, pour essayer de comprendre les sept grandes modalités de présence. Bon, c'est pas ce que je vais développer maintenant. Je vais développer maintenant simplement comprendre. Que signifie le « je suis » du Christ? Oui. Au plan philosophique, je regarde mon « je suis ». Au plan de la foi, je regarde ce qui m'est révélé, le « je suis » du Christ. C'est pas à cause de ça que je prends le « je suis » au plan philosophique. Mais ça m'intéresse de rejoindre. Et quand on cherche la vérité, on a toujours ces coïncidences étonnantes. Parce que c'est quand même très intéressant. Si vraiment c'est à partir du « je suis » que j'affirme, moi, que je découvre ce qu'est la personne, c'est quand même très impressionnant. Après, on relit l'Évangile avec une attention toute particulière. Jésus dit « Je suis ». Je suis le pain véritable, le pain de vie. Vous ne pouvez pas dire ça. Je suis la lumière du monde. Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est quand même quelque chose d'une force étonnante. C'est la reprise de la grande révélation de Yahvé à Moïse. Je suis celui qui est. Et Jésus dit simplement, je suis. Et on comprend très bien comment Jésus peut dire, je suis, simplement parce qu'il se présente. Tandis qu'Yahvé reste invisible. Donc je suis celui qui est. Il y a une affirmation particulière. Eh bien, je suis donc là en présence de Jésus qui se présente à moi dans son mystère propre et dans son mystère personnel. Je suis. Alors, une question qu'on se posait hier et que je repose maintenant avec toute sa force. Pouvons-nous parler, quand il s'agit du mystère du Christ, d'une personnalité psychologique de Jésus? Ou devons-nous, devant le mystère, affirmer unique personne du Verbe? Ceux qui affirment la personnalité psychologique affirment aussi la personne divine du Verbe. Vous voyez, nous retrouvons là une question de toute la grande tradition des pères de l'Église, les deux grands courants, le courant d'Antioche et le courant d'Alexandrie. Antioche affirme avant tout que Jésus est un homme, sans nier la divinité, c'est bien évident. Mais ils mettent en pleine lumière l'humanité sainte de Jésus. Tandis qu'Alexandrie affirme avant tout le Verbe. Donc, il y a eu perpétuellement la tension au sens propre, au niveau de la théologie et au niveau des pères de l'Église, de ces deux affirmations. Quand il s'agit du mystère du Christ, où on affirme davantage le mystère de l'homme, où on affirme davantage le mystère du Verbe. incompréhensible. Le tout, c'est qu'on maintienne deux natures en une personne. C'est sûr que saint Thomas, dans sa théologie scientifique de la Somme, affirme en premier lieu le mystère du Verbe. Donc, il est dans la grande perspective d'Alexandrie, sans négliger du tout le point de vue de l'homme, puisque saint Thomas est le premier qui met que dans le Christ, il y a des passions, ou plus exactement, des pro-passions. Donc, en affirmant ça, saint Thomas montre bien que l'homme dans le Christ est parfaitement homme. Que le Christ est vraiment un homme. Et il est un homme assumé par le Verbe de Dieu. La tendance d'aujourd'hui, on peut dire, qui était peut-être manifesté le plus, je vous l'ai déjà dit, par toute la théologie allemande protestante qui insiste davantage sur l'homme. Et la théologie catholique a pris la suite en essayant de se servir, de la psychologie pour mieux comprendre Jésus homme. C'est pour ça que c'est une question très très actuelle. Vous voyez, il y a toute une série de positions théologiques, exégétiques et théologiques, qui se demandent si Jésus avait conscience être fils de Dieu. Certains, j'ai lu ça, c'est pour ça que je peux le dire, j'ai lu dans un petit dossier qui date maintenant de 15 ans. On dit Jésus à Cana a essayé de voir si ça marchait. C'est comme ça, c'était comme ça. Puis il a vu que, oui, puisque c'est le commencement de sa vie apostolique. Il a vu que, oui. Et qu'au fond, ce n'est que progressivement que Jésus a acquis une conscience d'être vraiment, non seulement l'envoyé de Dieu. À Cana, il se posait la question. Mais qu'il était vraiment fils de Dieu. Le point de vue psychologique. Donc, le point de vue du personnage, de la personnalité psychologique. Quelle est la personnalité psychologique du Christ? Le Christ avait-il conscience d'être fils de Dieu? Il savait qu'il était fils de Marie. Avait-il conscience qu'il était fils de Dieu? Et pour eux, ce n'est qu'avec la résurrection qu'il a eu conscience d'être fils de Dieu. Ce qui explique, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette sorte de, je ne dis pas d'angoisse, mais de peur, de terrible que Jésus a ressenti à la croix. Le drame, comme on dit. Le drame de Kierkegaard. Mais très en lumière. Il a vécu le drame. Et ce n'est qu'avec la résurrection que Jésus a eu la certitude d'être fils de Dieu. Alors, pouvons-nous accepter une position comme celle-là? Est-ce qu'une position comme celle-là n'est-elle pas en contradiction avec notre foi? Oui, il faut qu'on puisse, parce que On l'entend, ces choses-là, quelquefois même en prédication. C'est pas seulement réservé à un petit noyau de gens, mais en prédication. Alors, est-ce qu'on doit dire, le curé le dit, le prédicateur le dit, donc je dois y croire? Ou est-ce qu'au contraire, on doit prier pour le prédicateur, 8 jours après, si on peut l'inviter à notre table, prendre un bon Bourgogne avec lui, et puis quand il est un peu détendu, dire, monsieur le curé, vous dites des choses qui ne sont pas conformes à la foi catholique. Oui, parce qu'il ne faut jamais, jamais aller tout de suite à la sacristie après la messe. Jamais. Parce qu'alors, vous suscitez un drame. Parce que quand on a prêché, on est dans une certaine vulnérabilité. Il ne s'agit pas à ce moment-là de dire, monsieur le curé, vous vous trompez. Il faut repromener. Donc c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Les corrections fraternelles doivent se faire quand on sait que c'est efficace. C'est saint Thomas qui dit ça. C'est un principe excellent. On ne corrige quelqu'un que si on a beaucoup de, que si on croit vraiment que ce sera efficace. Autrement, c'est inutile, il vaut mieux rester dans le silence. Parce que c'est un manque de charité, alors. La correction fraternelle est un acte de miséricorde et de charité. Et donc, c'est en vue de rétablir quelqu'un, de le remettre sur pied. Si on sait d'avance qu'il est incapable de comprendre, on se tait et on prie. Tandis que si on croit qu'il peut se corriger, on est plusieurs à le dire successivement. On l'invite une semaine, 8 jours après un autre l'invite, 8 jours après un autre invite, toujours avec un vin meilleur. Et alors c'est vrai qu'il y a une progression. Progression, et dans cette progression, on peut petit à petit dire oui, on va l'influencer. Je dis ça pour cela et pour d'autres choses aussi. Ça peut être utile, mais il faut savoir comment on peut corriger quelqu'un qui normalement a sur nous autorité dans les choses divines. C'est pas commun de corriger quelqu'un qui a l'autorité. Alors il faut essayer de que ce soit le plus efficace possible. Alors, essayons de comprendre. Quand il s'agit du mystère de l'incarnation, le Verbe de Dieu assume la nature humaine en faisant ce que je vous disais hier, que l'âme du Christ, l'âme spirituelle de Jésus, subsiste dans le Verbe. Voilà ce que saint Thomas n'hésite pas de dire. Il n'y a pas deux subsistances, celle de l'âme et celle du Verbe. Il n'y a pas deux hypostases, question posée. Une seule, c'est le Verbe qui fait que la nature humaine assumée par le Verbe subsiste. Et ceci, c'est de foi. C'est les conciles de Chalcédoine, les conciles d'Éphèse qui ont précisé cela. Alors, sauf si vraiment vous avez l'esprit tordu, vous direz, ah, il faut aujourd'hui une herméneutique vis-à-vis de ces conciles, c'est-à-dire une interprétation. On a dit ça au 5e siècle, aujourd'hui, on dirait plus ça, parce que le mot âme n'a plus de sens. Alors, je ne vois pas par quoi on va le remplacer. Ça n'a plus de sens. Pour beaucoup, ça n'a plus de sens. Je crois qu'on est obligé de maintenir que l'âme humaine du Christ a été créée par Dieu dans le sein de Marie et que cette âme subsiste dans le Verbe. et que par cette âme qui subsiste dans le Verbe, le corps du Christ, le corps humain de Jésus, le corps vivant, subsiste dans le Verbe, par là. C'est pour cela qu'après, au moment de la mort, où il y a eu séparation de l'âme et du corps, l'âme du Christ, séparée du corps, continue de subsister dans le Verbe. Et le cadavre du Christ subsiste dans le Verbe. C'est un cadavre divin. Et la séparation de l'âme et du corps est demeurée dans le Verbe. C'est très beau, ça. C'est pour ça que le corps du Christ, le corps cadavérique du Christ, parce qu'il est Dieu, ne peut pas connaître la corruption. Donc, cette âme subsiste dans le Verbe. Le Verbe de Dieu a sa vie propre. Le Verbe de Dieu a son amour propre. L'amour du Fils bien-aimé pour le Père. Et l'âme du Christ vient forme le corps singulier, individuel. Le corps singulier formé en Marie a sa vie propre. Autrement dit, dans le Christ, il y a la vie du Verbe et la vie de la nature humaine, de l'homme. Ceci, c'est net quand Jésus dit « Père, que ce calice s'éloigne de moi, mais non, que ta volonté soit faite. » C'est la volonté humaine du Christ qui prie le Père d'écarter le calice. Et en même temps, cette volonté humaine veut obéir pleinement et totalement au Père. Quand Marie retrouve Jésus après les 3 jours de séparation, ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père ? C'est Jésus, dans sa vie d'homme, qui se soumet entièrement au bon plaisir du Père. Quand on dit que Jésus est mort dans l'obéissance, c'est la vie spirituel de l'âme du Christ qui obéit au Père. C'est pour vous montrer que dans l'Évangile, constamment, nous sommes en présence de cette volonté humaine qui se soumet à la volonté du Père. Je précise encore, l'âme humaine du Christ, subsistant dans le Verbe, va recevoir du Verbe de Dieu, une plénitude de grâce. La grâce sanctifiante dans son âme. Autrement dit, l'âme du Christ est doublement sanctifiée. Elle est sainte par le mystère de l'union hypostatique. Elle est sainte par la plénitude de grâce qui est en elle. Et ça, c'est l'analyse du théologien. Je prends l'analyse de saint Thomas. Parce que je crois qu'elle est la plus pénétrante. Quand le Christ agit par son âme humaine, il agit toujours sous l'impulsion de la grâce, plénitude de grâce. Et la grâce du Christ est parfaite, pourquoi ? Selon le raisonnement très simple de saint Thomas, plus on est proche d'une source, plus on reçoit. Si vous êtes tout proche d'un feu de bois, vous avez très chaud. Si vous êtes très loin, plus très chaud. L'âme humaine du Christ est présente dans la source de toute grâce, le Verbe de Dieu. Et donc elle reçoit du Verbe de Dieu une plénitude de grâce. Et pour saint Thomas, cette plénitude de grâce est telle qu'elle ne peut pas croître. Et on comprend très bien pourquoi. Étant donné que la situation de l'âme du Christ par rapport au Verbe de Dieu demeure toujours la même. Mystère de l'union hypostatique. C'est une unité absolument indivisible. Saint Augustin l'a dit avant saint Thomas avec une force étonnante. Quand il dit la plus grande unité qui peut exister, c'est celle entre l'âme humaine de Jésus et le Verbe de Dieu, puisqu'ils sont unis dans le Verbe, la personne même du Verbe, qui est absolument indivisible, absolument simple. Donc, la grâce du Christ ne peut pas augmenter, elle a sa plénitude. Et c'est pour cela que cette grâce, étant dans la plénitude, implique tout de suite la vision béatifique. La vision béatifique dans l'intelligence humaine du Christ. L'intelligence humaine du Christ, dès le point de départ, dès sa conception, a tout de suite été illuminé par la vision béatifique. Inutile de vous dire que cette conclusion des théologiens a duré jusqu'au XVIIIe siècle. Les théologiens, à partir de la fin du 19e et dans ce 20e siècle, des quantités, pas tous, mais la plupart, nient ce point de vue de la vision béatifique dans l'âme du Christ, en disant que le Christ a eu la foi. Alors que pour saint Thomas, le Christ ne pouvait pas avoir la foi. Pourquoi ? Parce que l'humanité sainte du Christ, assumée par le Verbe, est dans un état de perfection. Or, la foi, c'est le conditionnement d'une âme imparfaite. La foi est une épreuve. Et à cause de la plénitude de grâce, l'âme du Christ a tout de suite connu la vision béatifique. Elle a tout de suite eu le lumen glorié. Donc l'âme du Christ, l'intelligence du Christ, est irradiée de toute la lumière de la vision béatifique. Et la volonté du Christ, dans ce qu'elle a de plus profond, aime en plénitude le Père dans la vision béatifique. Mais, note saint Augustin, la partie inférieure de l'intelligence et de la volonté du Christ sont dans un état de pèlerinage. Pèlerins, ils cheminent comme nous. Alors c'est évidemment une distinction assez subtile et assez difficile à comprendre. La partie la plus profonde de l'intelligence et du cœur du Christ sont dans la vision béatifique. La partie inférieure de l'intelligence et de la volonté ne sont pas dans la vision béatifique. et vive dans la lumière d'une prudence infuse, prudence parfaite. Ceci pour expliquer comment Jésus a mérité notre salut. Ce qui est dans la vision béatifique ne peut plus mériter. Le mérite implique la liberté. Et donc il faut qu'il y ait dans l'âme du Christ cette capacité de liberté. Et donc il faut nécessairement qu'elle soit sous la mouvance d'une plénitude d'amour, mais pas dans la vision béatifique. Mais tout ça repose sur les textes de l'Écriture. C'est-à-dire le fait que nous savons que le Christ nous a sauvés, il a mérité pour nous. Et d'autre part, le théologien voit cette plénitude de grâce dans l'âme du Christ, et donc cette plénitude de grâce va impliquer tout de suite la vision béatifique. Donc on doit faire ce partage des eaux. Et ceci, dès saint Augustin, 4e siècle. Saint Thomas l'a repris en précisant beaucoup saint Augustin. C'est assez difficile, hein, j'espère que vous arrivez à suivre, parce que on est dans le mystère, hein, on est dans le clair-obscur. De temps en temps, il y a un peu de lumière, puis de temps en temps, on retombe dedans. On ne voit plus rien du tout. Mais c'est très beau, parce que c'est quand même notre vie, ça, le mystère de Jésus. Et de voir comment Jésus a vécu au milieu de nous. Comme le théologien essaie de le comprendre. Donc, une fois qu'on a précisé ça, vous voyez que Jésus, ayant une plénitude de charité, tout l'humain, tout ce qui relève de sa vie humaine, est entièrement assumé par la grâce et par la charité. C'est pour ça que tous les actes de la vie du Christ sont sous la mouvance de la charité, dans l'obéissance à l'égard du Père, depuis le premier instant de sa conception. Il remercie le Père de lui avoir formé un corps pour accomplir sa volonté. Ceci, c'est dans le début de l'Épître aux Hébreux. Tu m'as formé un corps pour que j'accomplisse ta volonté. C'est révélé, ça. Donc, objet de foi. Toute la vie du Christ est sous la mouvance de la charité. C'est pour ça que je dis, dans le Christ, il y a une vie humaine parfaite. Mais la vie humaine du Christ est totalement assumée par la charité. Je ne peux pas donc m'arrêter dans le Christ à l'humain. Ces actes qu'il pose comme homme sont parfaitement humains, mais ils sont immédiatement orientés vers la vision béatifique, par la charité. Dans le Christ, il ne peut pas y avoir d'inconscient. Rien nous dire sur la vie du Christ. Il ne peut pas y avoir d'inconscient puisque tout est pleinement ordonné vers le Père en Fils bien-aimé, dans la lumière de sa prudence transformée par la charité et dans la lumière de sa vision béatifique. Quand je dis la psychologie du Christ, qu'est-ce que je veux dire? La psychologie saisit notre comportement. Elle ne saisit pas directement notre finalité. C'est pour ça que la psychologie, au sens précis, ne peut pas dire ce qu'est l'amour. Et la psychologie, au sens précis, ne peut pas dire ce qu'est la vérité. Elle demeure dans l'opinion et elle décrit. La psychologie en nous a pris une terrible place à cause des conséquences du péché originel. C'est bien évident. À cause des conséquences du péché originel, il y a les trois concupiscences. Et donc le comportement humain a une importance beaucoup plus grande que si j'étais entièrement transformé par la grâce. Cependant, reconnaissons bien, quand vous êtes très éveillé à l'oraison, quand vous êtes très éveillé dans un travail que vous faites, est-ce que vous vous tâtez le pouls à ce moment-là pour savoir où est-ce que vous en êtes au point de vue psychologique? Non. Vous êtes tout entier dans la réalité que vous contemplez. Quand vous êtes en face d'un ami que vous aimez beaucoup, aucun retour psychologique. Vous aimez. Vous êtes proche de lui. Il demeure en vous et, lui, et vous en lui. Quand vous travaillez avec beaucoup de lucidité et d'attention, vous n'avez aucune attention sur votre comportement, sauf si, ayant très mal au bras, vous devez écrire. Vous dites, ah, c'est embêtant, j'écris pas aussi vite qu'avant. Puis vous continuez d'écrire quand même. Mais voyez, à cause du mal, la conscience de votre comportement agit de temps en temps. Le mal de faute, le mal de peine, la souffrance augmente énormément le point de vue psychologique en nous. Le repliement psychologique. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Et quand on est en pleine forme, le sportif qui descend à toute vitesse en ski, vous croyez qu'il se tâte le pouls? Demandez-lui sa psychologie à ce moment-là. Le bon vivant qui est devant une bonne table, parce qu'il est sportif de ce côté-là. Alors, il ne se replie pas sur lui-même. Il mange, il goûte, c'est excellent, c'est bon. L'intellectuel qui cherche un problème, le matheux, qui est en plein dans ses mathématiques, vous croyez qu'il se replie sur lui pour voir où il en est psychologiquement, dans la joie ou la tristesse? Non. Il est dans ses maths. Si on vient le déranger, il dit, laissez-moi tranquille. Voyez, quand vous êtes très présent à ce que vous faites, la présence de la personne à ce que vous faites, vous dépassez le point de vue psychologique. Ça, je crois que vous êtes super psychologique, métapsychologique. Vous êtes au-dessus. Le psychologique, il existe, puisqu'il y a un comportement humain, mais il est assumé par la finalité, entièrement. Et vous n'avez pas conscience. Moi, vous ne cherchez pas à en avoir conscience. S'il y a un accro, à tout de suite. Mais tout d'un coup vous êtes fatigué. Ah. Tout de suite. Oui, la fatigue. Et les conséquences du péché augmentent énormément en nous. J'allais dire la dimension psychologique. Je crois que dans le Christ, la dimension psychologique a toujours été assumée par la plénitude de grâce qu'il y avait en lui et par la présence du Verbe. Et donc, la psychologie ne peut rien me dire du Christ. Je sais bien, quand je dis ça, je fais hurler une quantité de théologiens, du moins de professeurs de théologie. C'est pas la même chose. Ils ont un diplôme et ils enseignent. Sont-ils des théologiens? On est théologien quand on est contemplatif. C'est une sagesse. Et qu'on contemple le mystère. Et qu'on le transmet. Et que le mystère est toujours présent. La psychologie, on ne la contemple pas, on la subit. Je crois que la psychologie ne peut rien nous dire du mystère de Jésus. C'est très très important ça. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pas pour taquiner certains théologiens. Non, non, parce que c'est très important. Et ça a une immense conséquence sur nous. Sur notre vie théologale. Sur notre vie de foi, d'espérance et d'amour. Votre vie de foi, d'espérance et d'amour vous met au-delà du point de vue psychologique. La psychologie ne peut rien nous dire sur le contenu de notre vie divine. Mais rien du tout. Or, Jésus vit sa vie divine. Sa vie de Fils de Dieu. Dès que je pêche, je tombe dans un domaine infra-humain. Et c'est le conditionnement qui l'emporte. Et donc, la psychologie, là, peut dire beaucoup de choses. Remarquez que c'est bien comme ça que ça se passe. On va voir un psychologue quand ça ne va plus. On est abolique. On n'arrive plus à se lever le matin. Complètement abolique. On se lève qu'à 10h du matin, ou 11h du matin, complètement. Et il faut encore vous jeter en bas du lit. Autrement, vous restez dans le lit, impossible, aboulique, sans volonté. À ce moment-là, on va voir un psychiatre, un psychanalyste, pour sortir de là. Vous ne disiez pas nous, c'est l'ami. Vous ne disiez pas, c'est l'épouse. Je connaissais une épouse qui avait un époux qui était devenu complètement abolique. Alors vous comprenez, hein, le travail. Impossible. Alors elle l'a conduit chez un psychanalyste. Ah bon, qui de fait lui a permis de sortir de cet abolisme. Vous allez voir un psychologue quand vous êtes dans la détresse. Psychose, une névrose. Alors ça va plus. Je suis triste du matin jusqu'au soir, ça va plus du tout, j'ai plus aucun goût à la vie, c'est effrayant. Bon, ça dure un jour, deux jours, trois jours, une semaine, c'est pas terrible. Mais quand ça dure six mois, et que vous avez une tête désagréable pour tout le monde, tous ceux qui sont autour de vous, et qu'est-ce que tu as? Va voir le psychologue, il va te revivre. Remède universel, le psychologue. Absolument. Mais ça va plus. C'est quand ça va plus que vous y allez. Autrement, vous n'y allez pas. Demandez à un sportif, s'il est en pleine euphorie physique et psychologique, d'aller voir un psychologue. Il vous rira au nez. Je n'ai pas besoin. C'est pas fait pour moi, ça. C'est pas fait pour ceux qui sont au grand air. C'est fait pour ceux qui ont un air conditionné. Alors à ce moment-là, il doit avoir le point de voir le psychologue. Je crois qu'il faut dire que dans le Christ, il n'y a rien au point de vue psychologique. Tout est assumé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conditionnement humain. Il a assumé notre conditionnement, mais il l'a assumé. Donc il ne s'y est pas arrêté. Donc ne s'y étant pas arrêté, il n'y a pas de réflexion psychologique. Jésus n'a pas eu connaissance psychologique de lui. C'est très important ça. Si je peux affirmer ça, et je crois que je dois l'affirmer, je ne vois pas comment je pourrais affirmer à l'autre chose. Si vous avez des difficultés, notez-les. Et on pourra discuter là-dessus. Parce que ça, c'est très, très important. Et puis, c'est très, très actuel. Donc, il faut qu'on voit clair. Soi-même, pas ce que je dis. Mais je dis ça pour vous. C'est obligé de réfléchir. Et c'est vous qui devez en avoir l'évidence. Pour pouvoir dire, il ne peut pas être autrement. Vous savez, je dirais la même chose de Marie. À cause de sa plénitude de grâce, à cause du mystère de l'Immaculée Conception. Je crois que Marie n'a jamais eu aucune attitude psychologique. Je crois. Tout a été offert. Tout. Il n'y a pas eu les conséquences du péché originel. Les conséquences du péché originel sont terribles, vous voyez. Si tout ça est vrai, au fond, il ne peut y avoir qu'une psychologie chrétienne. Puisque je ne peux comprendre le poids du conditionnement humain qu'en raison des conséquences du péché originel. Comment voulez-vous qu'un psychanalyste freudien puisse comprendre la psychologie des profondeurs en s'arrêtant à mi-côte, puisque les conséquences du péché originel, c'est ce qu'il y a de plus radical dans notre psychologie. C'est notre psychologie des profondeurs. Nous sommes nés avec le péché originel. Nous avons été purifiés par le baptême de la faute, mais les conséquences demeurent. Donc il y a un poids terrible de concupiscence, d'exaltation de soi, dans l'orgueil, de désir de se montrer la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. Conséquence du péché originel pour la grenouille. Elle semble. Il y a des gens qui sont comme ça. Si on ne parle pas d'eux pendant 5 minutes, ils vous assènent un gros principe. Ah, moi j'étais là. J'avais oublié que vous étiez là. Immédiatement, ça ressort comme ça. Et parce que la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf, on ne pense qu'au bœuf, la pauvre petite grenouille à côté, cachée. Alors elle grossit, elle se grossit pour devenir aussi grosse que le bœuf. Et à ce moment-là, elle éclate. Et puis, conséquence, concupiscence de la chair. L'appétit de jouissance par rapport à la confiture au chocolat, conséquence du péché originel. Concupiscence par rapport à l'instinct sexuel. Tout ça, conséquence du péché originel. Alors, si je ne vois pas ça comme conséquence du péché originel, qui n'est pas l'homme? C'est quelque chose d'ajouté. Comment voulez-vous rétablir l'homme? Il faut y réfléchir de temps en temps à ça, c'est important. Notre moi psychologique est lié radicalement aux conséquences du péché originel. Impossible autrement. Notre moi psychologique. Alors il est orgueilleux, il est vaniteux, il est tendance vers les concupiscences sensibles, charnelles. Marie, rien. Dans le Christ, rien. Si tout ça est vrai, ce que je crois, autrement je ne vous le dirai pas, le Christ n'a pas de moi psychologique. Il ne peut pas. C'est un récit. Et par le fait même, il n'y a pas de personnalité psychologique. Dans le Christ, il n'y a que le jeu personnel du Verbe assumant la nature humaine. Je suis le pain véritable de vie. C'est Jésus qui donne son corps en nourriture, l'Eucharistie. Donc, c'est la nature humaine. Assumé par le Verbe, parce qu'il est le pain véritable, parce que ce pain est Dieu. Autrement, il ne serait pas de pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je, la lumière du monde. C'est l'intelligence du Christ, transformée par la science infuse. Il est la lumière du monde. Je suis, c'est la personne. La nature humaine n'ajoute rien à la personne humaine, divine. Je suis la porte. Mais le parallélisme entre la porte et le pain. Mais les pauvres types, ce sont ceux qui manquent de pain et qui n'ont pas d'abri. Hein? Et le Christ dit le pain et la porte. La porte, c'est derrière l'abri. Comme m'expliquait un évêque de Jérusalem, n'oubliez pas que quand on vit dans une grotte, on demande au charpentier de faire une porte. On a besoin d'une porte pour être chez soi. C'est vrai, c'est l'abri, la porte, l'abri. La porte s'ouvre, la porte se ferme. Ouverte. Vous voyez comment on dit ça, porte ouverte. On ouvre la maison. Tout le monde peut rentrer. Je suis la porte, je suis le pain. C'est la nature humaine du Christ. Le bon pasteur, c'est la prudence du Christ. Prudence transformée par le point de vue surnaturel. Le Fils de Dieu, le Verbe, la résurrection. Je suis la résurrection. Jésus ne dit pas « Je suis le ressuscité ». Je suis la résurrection. C'est très fort. Source de toute résurrection. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est l'unité entre le Verbe et la nature humaine. Donc vous voyez, hein, les jeux du Christ, c'est pas du tout un jeu psychologique. C'est le Verbe de Dieu.